Merci à Léa et Isabelle hein, pour nous avoir conduits dans les champs, dans des conditions pas forcément super évidentes, mais c'était super, merci. Alors on ne s'est pas coordonné avec Daniel. Daniel a partagé dans la présidence sur le thème de la tristesse, du désespoir, et la prédication a porté sur le thème de la violence. Un jour de fête des mères, vous allez me dire, c'est peut-être pas forcément les thèmes qu'on aurait voulu voir abordés. Mais comme Daniel l'a rappelé, Dieu propose une issue au désespoir et à la tristesse, et on verra à travers le texte qu'on va lire que Dieu propose aussi une issue à la violence. Un petit sondage pour commencer. Qui est corse parmi vous? Bon, c'est bon, il n'y a pas de corse, donc je peux continuer, parce que j'ai une petite anecdote. Alors, qui est déjà allé en Corse? Oui, quand même, pas mal. Hein. Alors, il y a deux siècles, en 1839, un écrivain, un continental, comme on dit en Corse, moi je n'y suis jamais allé, hein, Prosper Mérimée a fait un voyage en Corse, et c'était pour voir les monuments, mais il a beaucoup été interpellé par une histoire qui s'était passée quelques années avant, en 1833, dans un petit village qui s'appelle Fozzano, près de Sartène. Et dans ce village, il y a eu une vendetta, une guerre privée entre deux familles, et qui était pris dans un cycle de vengeance pour nettoyer l'honneur de la famille à la suite d'offenses, d'une demande en mariage, enfin quelque chose de relativement anodin qui s'était transformé en carnage entre ces deux familles. Et il en a fait un livre, ça l'a tellement étonné parce que c'est des choses qui étaient à l'époque, on va dire, très surprenantes pour quelqu'un qui n'était pas baigné dans la culture corse méridionale, on va dire. Il en a fait un roman qu'aujourd'hui on ne connaît presque plus. Hein. Mais en tout cas, ce cycle de violence qui ne s'arrête pas l'avait beaucoup surpris. Et le texte qu'on va lire dans la Bible ce matin, ces violences dont on va parler, elles auraient pu déboucher sur un cycle de type de celui d'une vendetta. Alors on est dans le désert, pour camper un petit peu le paysage, on est dans le désert de Judée, au sud de Jérusalem, et un homme, David, vit dans ce désert parce qu'il est, il a été chassé de la cour du roi Saül. Saül le pourchasse, Saül veut attenter à sa vie par jalousie. Et donc Saül doit se cacher. Et en tout cas, il vit dans ce désert, il ne vit pas tout seul, il est entouré de 600 hommes qui sont ses compagnons. Il y a également certains ont des femmes, des enfants. Et dans ce désert, ben, c'est un peu la survie. Et donc ces 600 hommes, avec toute leur famille, vivent de... Des fois, ils font des radias dans des villages philistins qui sont pas trop loin. Et dans certains cas, ils rendent aussi service à des propriétaires de troupeaux pour protéger les troupeaux. Et c'est dans ce cadre que va se dérouler le récit qu'on va lire. Et on va le lire en trois parties. Dans la première partie, on va voir qu'il y a une violence qui commence à naître et à la violence répond la violence. Dans la deuxième partie du récit, on verra que quelqu'un se lève pour mettre fin à cette violence. Et on verra la manière dont la paix revient dans cette situation. Le texte se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 25. C'est un texte assez long, mais qui, à mon sens, vaut la peine d'être lu dans son intégralité. On va l'afficher également. 1 Samuel, chapitre 25. On commence à partir de la fin du verset 1. Je vais le lire dans la version du Semeur. David se mit en route et se retira au désert de Paran. À Mahon vivait un homme très riche qui avait des propriétés dans le village de Carmel. Il possédait 3000 moutons et 1000 chèvres. À cette époque, il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses moutons. Cet homme, un descendant de Caleb, s'appelait Nabal. Sa femme, Abigaïl, était très intelligente et belle, tandis que son mari était dur et méchant. David apprit au désert que Nabal tondait ses moutons. Il chargea 10 de ses hommes d'aller le trouver à Carmel et de le saluer de sa part. « Voici comment vous lui parlerez, leur dit-il. Longue vie à toi, que la paix soit avec toi et avec ta maison, que toutes tes affaires prospèrent. J'apprends qu'on fait la tombe de tes moutons. » Tant que tes bergers ont été avec nous, nous ne leur avons fait aucun tort. Rien n'a été dérobé de leurs troupeaux pendant tout leur séjour à Carmel. Interroge donc tes serviteurs, ils te le confirmeront. Puissent donc mes serviteurs trouver également bon accueil auprès de toi, puisque nous arrivons en ce jour de fête. Donne-leur donc, je te prie, ce que tu auras sous la main pour tes serviteurs et ton fils David. » Les jeunes compagnons de David allèrent et répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils attendirent. Nabal leur répondit, « Qui est David ? Et qui est le fils d'Isaïe ? De nos jours, il y a trop de serviteurs qui s'enfuient de chez leur maître. Et vous croyez que je vais prendre de mon pain, de mon eau et de ma viande que j'ai fait débiter pour mes tondeurs pour les donner à des gens venus de je ne sais où ?» Les serviteurs de David repartirent et rentrèrent. Ils rapportèrent intégralement à David la réponse de Nabal. Alors David ordonna à ses hommes que chacun prenne son épée. Et chacun mit son épée à sa ceinture. David aussi ceignit la sienne et partit avec environ 400 hommes, laissant les 200 autres pour garder leurs affaires. Voilà le début de notre récit. Un riche propriétaire de troupeaux, Nabal, a bénéficié des services de David et de ses compagnons. Et 3000 moutons sont en train d'être tondus. Donc c'est un gros, gros travail. Mais c'est aussi une période de fête, de réjouissance. Parce que la laine, on estime qu'il y a à peu près 3 tonnes de laine qui pourront être tirées de ces moutons. Ça va rapporter de l'argent et ça, c'est un temps d'abondance. Et la demande de David, elle est légitime. Il demande à pouvoir recevoir, pour des services rendus, un peu de nourriture qui va sans doute changer des rations ordinaires qu'il mangeait avec ses compagnons. La politesse d'usage est utilisée, longue vie à toi, paix, etc. Et la réponse de Nabal, elle est sans nuance. Non. Vous n'aurez pas de viande, pas d'eau et pas de pain. Et en plus, qui êtes-vous ? David a fui la cour du roi, c'est à ça qu'il fait allusion. C'est un serviteur renégat, un serviteur qui s'enfuit, un fugitif, quelqu'un d'insignifiant. Nabal refuse, mais il insulte David. Donc ça, on le comprend bien, hein, que Nabal n'a pas envie d'aider David. Mais dans une culture de l'honneur, comme était la culture, on a parlé de la Corse au début, hein, mais en Palestine, à l'époque de David, et encore aujourd'hui dans les cultures méditerranéennes, la culture de l'honneur est très forte. Et quand on refuse d'offrir un cadeau, pardon, c'est une offense très grave. Ça jette la honte sur David et sur les siens. Et quand on voit la réaction de David, je pense que c'est effectivement comme ça qu'il l'a reçu. Quoi ? Qu'est-ce que j'entends ? Répétez-moi. Répétez-moi ce qu'a dit Nabal. Ah ouais. Il a dit ça de moi, de David. Oula, oula, oula. Ça, je ne peux pas laisser passer. Bon, allez les gars, prenez vos armes, on y va. Tu veux dire, on y va tous les 10 avec toi ? Non, non, non. On va y aller 400. Comme ça, on va lui donner une bonne leçon. Il va comprendre à qui il a affaire. Il va comprendre qu'on n'injurie pas David impunément. Je traduis, hein, à la manière des collégiens au week-end d'église. On pourrait faire encore plus, tout le monde prend ses calaches, on va dans les voitures. Voilà, quand on entend parler de ce qui peut se passer dans les cités, c'est un peu ça, quoi. C'est, oui, il m'a injurié, paf, on va aller se venger. C'est un peu comme ça que réagit David. Pourtant, si on lit juste le chapitre qui précède, David, c'est l'épisode un peu plus connu que celui qu'on vient de lire, où David est caché dans une grotte avec ses compagnons, et puis Saül arrive, il est en train de le pourchasser, et Saül doit satisfaire un besoin naturel, il va dans cette grotte. Il y a longtemps, on disait qu'il dormait, mais c'était pour faire une traduction un peu plus polie du passage. Et en tout cas, Saül est juste à portée d'épée de David. Ses compagnons lui disent « Vas-y, tue-le maintenant, il te poursuit de manière injuste depuis tant de mois, t'as l'occasion. » Et David refuse de céder à cette tentation et de tuer Saül. Là, quelques mois après, il n'y a plus aucun scrupule. Nabal doit être sévèrement puni. À la violence verbale de Nabal, David répond par la violence des armes. On entre dans un cycle de violence, dans une escalade. Il y a, pour utiliser un terme un peu savant, on peut parler de mimétisme. C'est-à-dire qu'il y a une vulgarité chez Nabal Et David répond avec une vulgarité similaire. Ils sont 400 à accompagner le chef, et personne n'ose dire « t'es sûr de toi, David, là ?» Non, personne. On suit le chef. Tous ces hommes-là se sont sentis insultés de la même manière que David. Ils sont en route, David et ses 400 soldats, ses 400 compagnons, et en route, un peu plus loin, on peut afficher deux versets, on nous montre ce que David ressent intérieurement. On va lire ces deux versets. Versets 21 et 22. C'est donc en vain que j'ai protégé tous les biens de cet homme dans la steppe pour qu'il ne perde rien de ce qu'il possède. Il me rend le mal pour le bien. Que Dieu fortifie tous mes ennemis et même qu'il les bénisse si d'ici demain, au lever du jour, je laisse subsister un seul homme dans sa famille. Quelle amertume, hein, dans la bouche de David, dans son esprit, dans ce qu'il pense, dans ce qu'il ressent. Et je trouve ces deux versets très, très frappants, parce qu'on voit les mécanismes de la colère et de la violence qui sont à l'œuvre. Qu'est-ce qu'on note? Déjà, il ne parle pas de Nabal, il parle de sept hommes. Un premier mécanisme, c'est d'essayer de dévaloriser l'autre. Ça nous est sans doute déjà tous arrivé, enfin peut-être en tout cas à moi, mais de dire, au lieu de donner le prénom de la personne, de dire, va parler à cet idiot là-bas. Hein, c'est une manière de un peu de nier la personne. Deuxièmement, il compare le bien que lui a fait en protégeant les troupeaux et le mal que Nabal lui fait. Donc on met en contraste tout le bien que David a accompli et tout le mal que Nabal a réalisé. Et ça crée de l'indignation intérieure encore. Moi j'ai fait tout ça pour lui et lui voilà la manière dont il me renvoie l'ascenseur. Il y a sans doute du vrai là-dedans, hein. L'attitude de Nabal a été une attitude qui d'ailleurs a été un péché d'après la loi. Mais là, ce que cherche surtout David, en se rappelant ça dans son cœur, c'est à justifier son attitude. Il m'a fait ça, alors que moi j'étais bon envers lui, et bien maintenant, il va avoir que ce qu'il mérite. David cherche à se justifier lui-même. Et dernière chose, au verset 22, David va même jusqu'à prêter serment pour montrer sa détermination. Et les intentions de David ici sont très claires, il veut tuer tous les membres de la famille de Nabal. David rumine. Et c'est ça le troisième mécanisme, c'est que quand la colère prend le dessus, on rumine, on fulmine, ça nous occupe la tête, et ça grossit, ça grandit. Le désir de vengeance, le désir de faire mal est renforcé. Alors quand on lit ce texte, on peut se dire effectivement que la réaction de David, elle est excessive, disproportionnée. Et j'espère bien qu'aucun de nous ici, quand il est un peu offensé, ne va prendre une arme et tuer toute la famille de celui qui l'a offensé. Mais pourtant, cette première partie nous montre quels sont les mécanismes de la violence. Et comment est-ce que cette violence s'entretient? On ne parle pas que de la violence avec des armes ou de la violence physique. Je pense qu'on est peut-être plus confrontés, nous, aujourd'hui, à de la violence verbale. Et ça commence dans la cellule familiale, entre parents et enfants, dans le couple, entre mari et femme, au travail, entre collègues, dans une réunion. Parfois, ça peut chauffer dans une réunion. Au sein de l'Église. Et on est tous confrontés à ce que David a vécu, quelqu'un qui refuse quelque chose qu'on demande légitimement et quelqu'un qui peut un peu se moquer de nous ou nous dédaigner. Comment est-ce qu'on réagit dans de telles circonstances? Alors, personnellement, en lisant ce texte et en méditant ce texte, j'avoue que je me suis reconnu dans la manière de réagir de David. Parfois, ça reste en dedans. Je ne l'exprime pas, mais la colère est souvent là, avec beaucoup de rumination, d'indignation, d'auto-justification. Ben moi, j'ai fait ça, mais voilà, mon épouse pourrait sans doute en témoigner. Et parfois, ça s'exprime par des paroles blessantes, qui peuvent être comme une épée qui fait mal. Et est-ce que cet enchaînement est une fatalité? Alors, pour avoir la réponse, on va lire la suite du texte, une portion assez importante, les versets 14 à 31. L'un des serviteurs de Nabal alla informer Abigaïl de ce qui s'était passé. Il lui dit « Voici que David a envoyé des messagers depuis le désert pour saluer notre maître, mais celui-ci les a mal reçus. Pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont jamais fait aucun mal et rien n'a disparu pendant tout le temps que nous étions auprès d'eux dans la campagne. Ils nous ont protégés comme un rempart, nuit et jour, pendant tout le temps que nous avons passé avec eux auprès des moutons. Maintenant, réfléchis bien et vois ce que tu peux faire. » Car si tu ne fais rien, certainement il arrivera malheur à notre maître et à toute sa famille. Quant à lui, il a si mauvais caractère qu'on ne peut rien lui dire. Abigaïl prit en toute hâte 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons déjà préparés, 5 mesures de blé grillé, 100 paquets de raisins secs et 200 gâteaux de figues sèches. Elle chargea le tout sur des ânes et elle ordonna à ses serviteurs « Passez devant, je vous suis !» Son mari Nabal ne savait rien de tout cela. Installée sur son âne, elle descendait, cachée par la montagne. En même temps, David et ses hommes descendaient le versant opposé dans sa direction, et elle se trouva bientôt en face à eux. C'est là qu'on voit les deux versets où on nous parle de ce que David pensait intérieurement. Quand Abigaïl aperçut David, elle se hâta de descendre de son âne, et s'inclinant la face contre terre, se prosterna devant lui. Puis elle se jeta à ses pieds et lui dit... Et là, on va lire ce que Abigaïl dit, sachant que c'est le plus long texte dit par une femme dans tout l'Ancien Testament. « Mon Seigneur, fais comme si tout cela était ma faute. Permets à ta servante de t'adresser quelques mots d'explication et daigne écouter ses paroles. Que mon Seigneur ne fasse donc pas attention à ce bon à rien de Nabal, car vraiment, il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal, l'insensé. Et c'est bien vrai qu'il est insensé. Moi, ta servante, je n'ai pas vu les serviteurs que mon Seigneur a envoyés. Mais maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu l'es toi-même, c'est l'Éternel qui t'a empêché de t'engager dans la voie du meurtre et de te venger toi-même. Que les ennemis de mon Seigneur et ceux qui veulent du mal, qui lui veulent du mal, deviennent comme Nabal. À présent, veuille accepter ces présents que moi, ta servante, j'apporte à mon Seigneur et les distribuer aux jeunes gens qui suivent mon Seigneur. Veuille aussi pardonner la faute de ta servante. Certainement, l'Éternel ne manquera pas d'accorder à mon Seigneur une dynastie stable, car mon Seigneur livre les guerres de l'Éternel. Et si l'on considère toute la durée de ta vie, on ne te trouve coupable d'aucun mal. Si quelqu'un s'avise de te poursuivre pour t'ôter la vie, l'Éternel, ton Dieu, gardera la vie de mon Seigneur pour que tu restes au nombre des vivants. Mais il jettera la vie de tes ennemis au loin comme avec une fronde. Lorsque l'Éternel aura accompli pour mon Seigneur tous les bienfaits qu'il t'a promis et qu'il t'aura institué comme chef d'Israël, alors mon Seigneur n'aura ni remords, ni trouble de conscience pour avoir tué quelqu'un inutilement et s'être vengé lui-même. L'Éternel fera du bien à mon Seigneur et tu te souviendras de ta servante. Alors, je pense qu'on est très content de voir apparaître Abigaïl dans ce récit. Une femme qui va avoir une action déterminante. On a un peu le sentiment qu'il y a d'un côté la brutalité et la testostérone des hommes là, qui se confrontent, et puis d'un coup la subtilité, l'intelligence féminine qui entre en jeu. Il y a peut-être de ça, mais c'est un peu plus subtil, puisque vous voyez que le premier à intervenir, c'est un homme, c'est le serviteur, un serviteur anonyme. Et c'est la première chose que je veux retenir de ce centre, de ce cœur du texte qu'on lit. Cet homme, dont on ne nous dit pas le nom, il a compris que quelque chose de très grave se jouait. Et il est allé le dire à Abigaïl. Ce n'était pas du commérage. Il n'est pas venu raconter des ragots. « Ah, mais tu ne sais pas ce que ton mari a encore fait, n'importe quoi, etc. » Enfin, il n'est pas venu alimenter la radio-moquette au sein de la maisonnée de Nabal. Non, il avait compris qu'il y avait un vrai danger et qu'il y avait une injustice qui a été faite envers David. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Pas grand-chose. Parce qu'il ne peut pas faire grand-chose, c'est un serviteur. Il n'est pas en situation de pouvoir rétablir la situation. Et pourtant, ce qu'il fait, c'est essentiel. Il va alerter du danger que court la maison de Nabal. Est-ce que le nom d'Irène Frachon vous dit quelque chose? Je vois Catherine qui opine du chef. Irène Frachon, c'est un médecin pneumologue au CHU de Brest, et c'est à travers son action opiniâtre que le médicament Mediator a été interdit en 2009. Hein, c'est quelqu'un qui s'était rendu compte que c'était un médicament qui avait des effets secondaires catastrophiques, et c'est elle qui a mené des études, mais une fois qu'elle est arrivée à la conclusion que c'était un médicament qui causait des décès, elle n'était pas, elle, en mesure de faire quoi que ce soit. Elle a alerté les agences qui s'occupent de la sécurité du médicament. Et le médicament a été interdit. C'est ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. On en entend beaucoup parler ces derniers temps sur les évasions fiscales, sur la surveillance à travers Internet, etc. Les lanceurs d'alerte. Le serviteur de cette histoire, c'est un lanceur d'alerte. Lui, il ne peut pas faire grand-chose tout seul. Mais par contre, il a vu qu'il y a un danger. Et il va alerter quelqu'un qui est en situation de prendre les choses en main. Le deuxième élément, c'est le courage d'Abigaïl. Pour une femme à l'époque, faire des choses dans le dos de son mari, prendre sur les réserves de la nourriture pour la fête des jours suivants, aller rencontrer celui qui est devenu un ennemi de Nabal, c'était pas du tout ce qu'on attendait d'une femme. Elle prend des risques. Elle aurait pu être dans l'attente, en se disant que finalement ce serviteur a peut-être un petit peu exagéré, ou peut-être que David a d'autres chats à fouetter que de venir se venger. Elle aurait aussi pu fuir, quitter cette maison pour au moins protéger sa vie. Et ça peut être des réactions qu'on a quand on est témoin de la violence. Attendre que ça passe ou partir, parce qu'on a plus de risques de prendre des coups lorsqu'on commence à s'interposer. Mais ici, Abigaïl décide d'agir et elle part presque seule à la rencontre de David. Et le dernier élément important, c'est ce discours, ce que dit Abigaïl à David. La première chose qu'elle dit, c'est qu'effectivement, il y a eu une faute de la part de Nabal. Elle ne le minimise pas, elle ne dit pas « Oui, non, mais attends, tu t'exagères, c'était pas si grave que ça. » Non. Elle dit « Oui, 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 c'était un insensé » en parlant de son mari. Et elle s'associe même à ce que Nabal a fait, alors qu'elle n'était pas présente, qu'elle n'était pas au courant. Elle reconnaît qu'il y a eu effectivement une faute, une offense, et elle souhaite réparer cette offense à travers les cadeaux qu'elle apporte à David. La deuxième chose que dit Abigaïl et qu'elle fait, c'est de nommer l'attitude de David. Elle n'y va pas par quatre chemins. Elle dit tuer. Alors on voit qu'elle met les formes, mais elle parle de la voie du meurtre et de la vengeance par soi-même. Elle ne tourne pas autour du pot. Elle dit les choses clairement à David. Tu es en train d'aller dans la voie du meurtre. Et la troisième affirmation, qui est essentielle, elle rappelle à David qu'il a été appelé par Dieu à un destin particulier. Il est appelé à fonder une dynastie, il est appelé à livrer les guerres de l'Éternel, pas à livrer des petites guerres pour l'honneur, parce qu'il se sent blessé dans son estime. C'est pas ça que Dieu attend de David. Il attend de David qu'il livre les guerres de l'Éternel. Abigaïl dit en substance, ta tâche, David, n'est pas de tirer vengeance. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, et tu n'es pas Dieu. Tu n'as pas non plus à découvrir à quel point tu es fort et redoutable avec tous tes 400 compagnons, mais tu dois reconnaître la force et la puissance de Dieu qui te protège. C'est ce qu'elle dit, l'Éternel ton Dieu gardera la vie pour que tu restes au nombre des vivants. En fait, Abigaïl, elle réintroduit la dimension verticale dans la vie de David, la relation avec Dieu, alors que David, depuis qu'il a été offensé, il ne voit plus que de manière horizontale. Il veut vaincre, il veut aller se venger de cette offense. Et on a là une vraie confrontation entre Abigaïl et David. Il n'y a pas de langue de bois, n'y a pas de faux fuyant. Ce qui doit être dit est dit, mais on notera le respect et la douceur avec lesquelles Abigaïl s'exprime, comme en témoigne le très grand nombre de mentions du mot « Seigneur » dans son discours. Et je pense qu'on a besoin, à nos côtés, dans notre Église, dans notre famille, dans notre société, de personnes comme ce serviteur et comme Abigaïl, de personnes qui arrivent à percevoir lorsqu'il y a un danger et qui peuvent alerter, de personnes qui, face à un danger d'escalade verbale, de conflit, de comportement incorrect, osent se lever et osent, avec amour, rappeler des vérités essentielles sur ce qui est fait. On dit, là, il dit clairement, c'est un meurtre. Et le meurtre, c'est quelque chose qui est absolument interdit dans la loi. Et rappeler ce que Dieu attend de ses créatures. On a besoin de telles personnes, et on peut être, chacun de nous aussi, de telles personnes. On est tous témoins, à différents degrés, de conflits, d'offenses, de blessures infligées par les mots. Et on peut prendre exemple sur la manière dont Abigaïl a pu intervenir en étant guidé par Dieu. Quel a été l'effet de ce discours sur David? On va lire ensemble pour terminer les versets 32 à 35. David répondit à Abigaïl : Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de t'avoir envoyé aujourd'hui sur ma route. Béni sois-tu pour ton bon sens. Béni sois-tu de m'avoir préservé d'en venir au meurtre et de me venger moi-même. Vraiment, l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a empêché de vous faire du mal. Car je te le jure, aussi vrai qu'il est vivant, si tu n'étais pas venu me trouver si rapidement, il ne serait pas resté un seul homme à Nabal d'ici demain matin. David accepta les présents qu'elle lui avait apportés et lui dit « Rentre chez toi en paix, je t'ai entendu et j'agirai comme tu me l'as demandé. » On peut déjà noter que David s'arrête, il écoute, il observe, il ne continue pas son chemin en mettant Abigaïl de côté. Appuyer sur la touche pause quand on est quand on rumine, quand on est en colère, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Et ici, David écoute une personne qui vient lui apporter la contradiction, qui vient un peu lui remettre les idées en place. On voit qu'ici, David fait preuve de sagesse. Et c'est sans doute un exemple pour nous. Arriver à écouter des personnes qui nous mettent en garde, qui ne pensent pas forcément comme nous. Et David ne se contente pas d'écouter, mais il prend la parole. Il reconnaît que c'est Dieu qui a été à l'œuvre à travers Abigaïl. Il reconnaît ses intentions meurtrières, il ne s'en cache pas. Il dit « Ouais, effectivement, j'étais parti pour commettre un bain de sang. » Et c'est seulement Abigaïl qui a réussi à l'en empêcher. Et à travers Abigaïl, c'est Dieu qui a empêché David. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que le David impulsif, qui voulait aller tuer tout le monde, devienne de nouveau un agneau qui repart dans la paix, qui accepte les présents? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il s'est passé la chose suivante, c'est que Abigaïl, à travers l'attitude, le courage, à travers les paroles d'Abigaïl, David a retrouvé son identité en Dieu. L'identité d'un homme qui doit livrer les combats de l'Éternel et ne pas s'arrêter aux offenses humaines. L'identité du fondateur d'une dynastie, l'identité d'un homme dont la vie est gardée par Dieu. Quand il est parti de son campement, David était plein de lui-même, de sa suffisance. Il était vide de Dieu et Abigaïl lui permet de renouer avec son image en Dieu. Quand on est confronté à l'offense, quand on est offensé, quand les personnes refusent de nous accorder ce qui peut nous sembler légitime, comment est-ce qu'on réagit? Comme je vous l'ai dit, moi, ma réaction, elle est souvent semblable à celle de David. On s'indigne, notre suffisance remonte à la surface, nos sentiments sont blessés. Tout ça, c'est des choses qui sont réelles. Et quand même, très souvent, on a envie de répliquer, on a envie de rentrer dans une escalade, parfois souvent verbale. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'une intervention comme celle d'Abigail, d'une intervention qui nous rappelle qui nous sommes profondément. Et ce matin, j'aimerais nous encourager et renouveler l'encouragement à avoir nos regards fixés sur Jésus-Christ. Pourquoi sur Jésus? Parce que Jésus nous rappelle notre identité réelle, celle de personnes, de pécheurs qui ont été sauvés par grâce. Notre identité en Dieu, c'est un cadeau, c'est un don, une pure grâce. On est accueilli par Dieu, pas parce qu'on a fait des bonnes choses, mais parce que Dieu nous fait grâce. On est sauvé de la colère de Dieu, pas parce qu'on est intelligent ou beau ou quoi que ce soit, mais par grâce. Et nous aussi, comme Dieu nous a fait grâce, nous devons faire grâce aux autres. Nous ne devons pas laisser notre colère nous dominer. C'est sans doute notre réaction spontanée, immédiate. Et à travers Jésus, nous pouvons nous rappeler, comme David s'est rappelé avec Abigail, que son identité profonde, ce n'était pas celle d'un homme blessé et qui avait le droit d'exercer des représailles, mais celle d'une personne qui a été appelée par Dieu et qui a été rachetée. Que ce récit qui s'est passé il y a 3000 ans, qui peut nous sembler lointain dans notre culture contemporaine, nous interpelle, nous fasse peut-être réfléchir à la manière dont on vit les conflits, dont on vit, des fois comme témoin, et pas forcément comme protagoniste, des situations de violence ou des situations de colère excessive et parfois de représailles. Que Dieu nous laisse nous être inspirés par Abigail, par ce serviteur, et aussi par la manière dont David, à la fin de ce récit, accepte de retourner chez lui dans la paix. Je vous invite à la prière.